franceinter.fr.
Bonjour. Cet été 2016 est très sportif. Il y a actuellement l'Euro de football et il y aura au mois d'août les Jeux Olympiques de Rio. Il paraît presque naturel de dire que près de la moitié des athlètes qui participeront à ces JO seront des femmes. Et pourtant, comme nous allons l'entendre ce matin, être une femme sportive, amateur ou professionnelle, reste difficile dans nos sociétés. Surtout dans les sports encore considérés comme réservés aux hommes, par exemple le rugby ou la boxe. Que ce soit pour la place accordée aux femmes dans la couverture médiatique des événements sportifs, pour les rémunérations des sportives, les femmes restent en arrière-plan. Les footballeuses américaines ont par exemple menacé de boycotter les JO si elles n'obtenaient pas l'égalité salariale avec les hommes. Les performances des femmes ne sont pourtant pas moins dignes d'intérêt, mais elles semblent condamnées à l'exploit pour qu'on en parle. Les préjugés sexistes ont la peau dure et ils viennent de loin. Cela commence dès la cour de récréation où débute le reportage de Céline Rouzet, sportive, un combat.
Interception, le magazine de la rédaction.
Pourquoi il veut pas que tu joues au ballon?
Parce qu'on est nuls.
T'es nul au foot, toi?
Non, je trouve pas.
Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a, pratiquement que des garçons qui jouent au foot sur le terrain, là-bas.
Il y a une fille. Une fille.
Ah oui, il y a une
fille. Il y a une fille et il y a combien de garçons?
On sait pas.
Moi, c'est difficile de marquer des buts au terrain de foot. Très difficile.
Non, c'est facile, j'ai déjà joué au foot, moi.
Mais c'est normal, toi, Zaya, parce que tu fais comme sport, tu fais du foot.
Mais c'est mon sport.
Et les grands, quand c'est nous qui sommes en train de jouer au foot, ils disent non, c'était pas vous en premier, c'était nous.
Ils nous mettent sur le côté, ils disent que vous êtes remplaçante quand quelqu'un se fait mal, et bien vous allez sur le terrain.
Et du coup, vous jouez?
Non. Non. Il n'a jamais allé sur le terrain parce qu'ils croient qu'on est nuls, les filles.
Ils pensent qu'on est nuls. Et moi, je pense que non. C'est en jouant au foot qu'on apprend à être fort.
Moi, je crois que l'après-midi, il faudrait qu'on leur dise aux grands. Et les filles aussi, ils ont le droit de jouer. Et que vous pouvez aussi prêter le ballon. Il n'est pas qu'à vous, il faut prêter dans la vie et partager dans la vie.
Et quand vous n'avez pas le droit de jouer au foot, quand les garçons ils vous empêchent de jouer au foot, qu'est-ce que vous faites du coup?
On joue à des jeux entre filles.
Par exemple, des petits jeux comme Boum Boum Disco ou
Dame
de l'espace. Mais et quand les garçons ils ont droit, j'aimerais bien dire aux garçons moi que moi chaque fois je m'ennuie parce que quand on joue à Boum Boum Disco ou les Dames de l'espace, c'est des petits jeux ça. Que moi j'aimerais bien jouer au foot parce que c'est un grand jeu et que moi j'aime beaucoup le foot parce que des fois je regarde des matchs avec mon papa et ça me fait penser à l'école parce que je joue au foot.
Comme dans toutes les écoles, le terrain de foot est marqué par des lignes au sol. De temps à autre, une petite rousse aux longues nattes enjambe rageusement la ligne pour frapper dans le ballon, puis elle ressort aussi vite. Autour d'elle, des filles regardent des garçons jouer entre eux. Ça fait des décennies que la scène se répète.
Dès leur force, les concurrents des sports virils par excellence. Là aussi, les femmes pourraient participer si on le juge nécessaire. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
Et si on extrapolait la cour de récré au monde des grands stades et du sport de compétition? En 2011, les équipes stars du foot féminin français, l'OL et le PSG, n'ont pas eu le droit de s'affronter au Parc des Princes. Raison invoquée, ne pas abîmer le terrain où les hommes devaient jouer le lendemain. Aussi, jouer dans un stade aux trois quarts vide n'aurait sans doute pas servi le sport féminin. Nous sommes en 2016 et les joueuses de l'OL viennent de remporter la Coupe de la Champions League. Pendant qu'elles fêtent leur victoire à Saint-Tropez, nous retrouvons Isabelle Bernard à l'OL, celle qui se bat pour remplir les stades des féminines. Donc on a des canapés, une machine à café, frigo.
Ah oui, il y a tout ce qu'il faut là.
Ah oui, la télé, Xbox.
En bas, c'est la salle de musculation, là, c'est les salles de soins.
D'accord.
Et voilà, donc c'est bien. Si elles veulent recevoir, faire quoi que ce soit, elles ont vraiment leur espace autonome. Ça a été une grosse évolution.
Est-ce que c'était comment avant pour elles ?
Ben avant, déjà fait les mêmes qu'elles attendent pour avoir le droit de s'entraîner sur un terrain. Quand des jeunes s'entraînaient, alors qu'elles étaient déjà championnes de France ou championnes d'Europe, elles attendaient 10 minutes de plus que les garçons sortent. Maintenant, non. Quand elles arrivent, elles savent qu'elles ont leur créneau horaire et que le terrain sera libéré quand elles arrivent, même si quelqu'un d'autre est dessus avant.
D'accord.
On va s'asseoir, non ?
Ouais.
C'est quand même plus cool.
Je m'appelle donc Isabelle Bernard. Je suis dirigeante de l'Olympique Lyonnais féminin depuis 5 ans. Alors ici, on est à Tolla-Vologe, où s'entraînaient et les garçons et les filles, le lieu historique du football à Lyon. Donc,
Et là, je vois des coupes.
Non, c'est quoi ça ? Les coupes, elles sont vraiment au siège social de l'Olympique Lyonnais. Et les coupes des féminines sont mises au même niveau que les coupes des garçons. On dit les garçons et les féminines, les garçons et les filles. Parce qu'on parle de football féminin, mais c'est un abus de langage. Les femmes jouent au football, les règles sont strictement les mêmes, les dimensions des terrains, les filets, tout ce que vous voulez. Simplement, il y a eu un abus, au lieu de dire les filles jouent au football, on a parlé de foot féminin. D'ailleurs, on a été reçus l'année dernière, on n'avait fait que le doublé entre guillemets, coupe et championnat de France. Et il y a un maire d'arrondissement qui nous a reçus pour fêter ça. Donc il a commencé à féliciter des femmes qui faisaient un sport d'homme. Donc il y a eu un bruit de fond terrible, il n'est pas allé plus loin. Et après, je suis allée le voir. Donc, il s'est aperçu de l'erreur. Et je lui dis non. Les femmes jouent au football. C'est un sport que les hommes s'étaient accaparés. Soit, mais c'est un sport.
Et est-ce que, bah justement, est-ce que vous trouvez que le foot est encore un univers sexiste ? Est-ce que vous subissez encore ce sexisme ?
Disons qu'à l'Olympique Lyonnais, moi, ça fait 10 ans que je m'occupe de l'équipe féminine et 5 ans que je suis dirigeante. On peut dire que Jean-Michel Aulas a un vrai engagement en faveur du football féminin. Et Jean-Michel Aulas a pris le pari de prendre cette équipe féminine. Et très vite, il s'est motivé quand il a vu le niveau technique. Et moi, quand j'ai vu l'absence de public dans les tribunes, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ce sport qui embrase la planète dans la version masculine se joue dans l'indifférence totale en France, parce qu'il y avait 200, 300 personnes, quand on voit la qualité de jeu. Donc on s'est renseigné, on a vu qu'on était très en retard. Quand il y avait 1 million de femmes licenciées en Allemagne, il y en avait 50 000 en France. Et etc. Bon, il y en a plus de 100 000 maintenant, ça a été multiplié par 2 en 5 ans, puis ça continue. Mais on s'est dit donc ça va partir, et alors il a dit banco, on y va, et il n'a jamais lâché. J'avoue que moi parfois je me suis un peu démoralisée, il m'a dit tu vas voir dans 4 ans, dans 5 ans. Et là ben, on voit vraiment, il y a une vraie différence. Hein. Quand vous me demandez combien il y avait de personnes, 200, 300, maintenant on déplace les 20 000, là en équipe de France elles vont en avoir 24 000 voire plus.
Et la réception de la part du public, en fait, dans les stades, est-ce que ça a évolué ? Parce que vous me parliez l'autre jour de remarques sexistes.
Ben dans les stades, c'était rien, il n'y avait pas d'ambiance. Et c'est vrai que les supporters qui arrivent de groupes de supporters d'équipes masculines arrivent avec leurs automatismes. Ce n'est pas qu'ils veulent mal faire. Je ne sais pas quel effet ça fait un homme d'être traité d'enculé, mais moi, je suis une femme, je sais que c'est très désagréable. Et quand une gardienne de but, elle a tout un groupe de supporters qui arrivent de l'équipe masculine opposée et qui lui crient « pute, salope », etc. Au bout d'un moment, comme elle n'est pas toujours en train d'arrêter le ballon, ça va bien, quoi. Mais au début, le premier travail, c'était de décomplexer les femmes, d'aimer le football et de vouloir en faire leur métier. Parce que je ne dis pas que c'était illégal, mais ce n'était pas pratiqué en France, ça n'existait pas. Donc il fallait trouver des astuces pour que les filles aient le temps de pratiquer, de jouer à un niveau. Parce que quand vous voulez monter à un niveau européen, c'est un travail à plein temps. Hein. Non seulement vous êtes sur le terrain, mais après vous avez les soins, vous avez les récupérations, vous avez l'hygiène de vie. Il y a tout un travail de background, on va dire, qui est fait, qu'on ne voit pas sur le terrain, mais qui est essentiel. Et donc il fallait qu'elles puissent avoir des contrats de professionnels. Et là encore, pas non plus mettre l'OL en avant, mais c'est grâce à l'OL, si à la FFF, il y a eu des contrats professionnels. Ça date de 2007, donc c'est pas si vieux. Donc c'est la fédération qui décide, donc c'est le SMIG minimum. Et puis après, on peut monter plus haut. Et donc c'est vrai qu'on a certaines jeunes, même en division 1, qui sont à mi-temps, donc elles touchent la moitié du SMIC. Mais bon, ça leur permet de faire des études. Parce qu'il y a une autre chose, c'est que là, de toute façon, j'ai un œil là-dessus, c'est que je veux que les filles aient le bac. Parce que quand vous êtes un garçon footballeur, vous pouvez trouver en Ligue 1, en Ligue 2, en DH, en CFA, etc., etc. Et puis il y a énormément de clubs, donc vous avez une possibilité de gagner votre vie en tant que footballeur. Quand vous êtes une femme, sortie de quelques clubs en Division 1, il n'y a pas de débouché professionnel. Donc ce n'est pas de la chair à canon quand même. Puis quoi qu'il en soit, la carrière s'arrête. Souvent un peu plus tôt pour une femme que pour un homme, parce qu'on ne peut pas avoir un niveau européen ou mondial en étant mère de famille, malheureusement. Et après, ben, comme c'est un salaire qui est standard par rapport à ce qui existe ailleurs dans le monde économique, c'est sûr qu'elles ont un deuxième projet de vie, un deuxième métier qui est parfois sans rapport avec le premier. Pour moi, je dis que ce sont des pionnières. Je sais qu'après, vous allez rencontrer Rachida Majri, qui est entraîneur et qui a réussi à trouver un contrat de travail d'entraîneur, eux, de ces si c'était difficile. Et voilà, et en fait, il y a une grosse difficulté pour que des jeunes garçons acceptent qu'une femme leur donne des ordres et qu'ils obéissent.
Je trouve ça absolument grotesque. J'ai déjà du mal à suivre le vrai foot, alors avec les femmes, vraiment, c'est pas ça qui m'arrangera avec elles.
Bon, disons, je suis pas tellement pour parce que je trouve pas ça tellement. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, puisque ces demoiselles veulent jouer, on va pas les empêcher.
Pierre Geoffroy, le football féminin n'est-il pas le refuge de joueuses androgynes?
Oui, mais ça ne pose pas de problème.
Tu peux lui répondre à l'heure, parce que l'heure, elle joue ensemble dans son club aussi.
Je ne discute pas avec les femmes de football.
C'est pas beau ça, Bernard.
Non, mais je le dis parce que c'est une chose, c'est mon caractère, c'est comme ça, c'est ma façon. Je
suis
de leur casserole, et puis voilà, ça ira beaucoup mieux.
Le thème, c'est l'entraînement au pied faible. Donc les règles, toutes les passes et tous les tirs doivent être faits du pied faible, ok? Sinon on repart gardienne de l'équipe opposée. C'est bon pour tout le monde?
Ouais. Je m'appelle Majri Rachida, j'ai 23 ans, je suis entraîneur dans le club de Jeunesse.
Est-ce qu'on peut repartir du tout début? Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez commencé à vous intéresser au foot quand vous étiez petite?
Bah, c'est venu naturellement, je viens d'un quartier qui s'appelle les Minguettes. En bas de chez moi, on avait un petit terrain de foot, ça s'appelait le City. Quand on était petite, avec ma sœur, bah, ça a été naturel, on a été attiré par le foot. On descendait en bas de la tour, on jouait avec les garçons. Et on s'est vite intégré, c'est un sport qu'on a beaucoup aimé. On passait toute la journée à jouer au foot et c'est comme ça que c'est venu. Après, bah, à l'âge de 12-13 ans, avec ma sœur, on a un club qui s'appelle l'AS Minguettes, qui est à côté de chez nous, on est parti faire des détections. Ensemble, on avait été prises toutes les deux et moi, j'ai décidé de ne pas continuer. Il n'y a que ma sœur qui est partie s'inscrire. C'est comme ça qu'elle a continué et a été vue par l'OL. Aujourd'hui, ma sœur, elle est pro, donc on ne regrette pas.
Elle est dans l'équipe de France et elle a fait partie, elle est championne.
C'est ça, ouais. Ma sœur, elle a continué en tant que joueuse et moi, je me suis reconvertie en tant qu'entraîneur. Après, bah, quand je suis arrivée à Jeunesse, où je suis là aujourd'hui salariée, j'ai un groupe garçon aussi et... Il y a une difficulté, c'est pas la même chose. J'ai aussi un groupe féminin et là, ça se passe très très bien. Après, les garçons, je pense aussi c'est l'âge parce que j'ai des plus petits. Mais voilà, ils ont 12 ans. Et les filles que j'ai, elles ont 16 ans. Après, au fur et à mesure, peut-être quand j'ai joué avec eux, que j'ai montré que moi aussi, je savais jouer au foot, bah, j'ai commencé à avoir de la crédibilité, on va dire. Mais chez les filles, j'ai pas eu ce souci-là du tout. C'était naturel et voilà.
Est-ce que vous voyez encore des petites filles jouer en bas des tours des Minguettes?
Ouais, j'en vois beaucoup. Et la plupart, elles viennent, elles me disent « Ah bah c'est ta sœur qui passe à la télé !» Voilà, ça fait plaisir.
Vous pensez que ça les encourage de voir des filles comme elles arriver à ce niveau-là de performance?
Bah après, je pense que oui, c'est sûr que ça les encourage. Après, comme je l'ai souvent dit, je pense que ma sœur, ça a été un exemple. Ça prouve qu'on peut... On peut venir d'un quartier et arriver où elle en est arrivée. Il faut juste du travail et de la persévérance. Et voilà.
L'OL est la locomotive du foot féminin français. Rappelons qu'en première division, seulement un tiers des footballeuses sont professionnelles.
Allez, délibérément, Christine Paris, avec vous, nous restons sous le signe du charme.
et de vos footballeuses françaises qui ont rencontré les Norvégiennes.
Oui, qui ont été battues 3-0.
Oui, mais elles sont belles.
Oui, elles sont belles. Et puis, moi, je suis un peu remontée ce soir. Je voudrais qu'arrête cette misogynie, parce que c'est complètement ridicule. On veut faire de la femme sportive un sexe symbole. On veut des Catherine Deneuve, des Beau Derek et des Ursula Andress sur tous les terrains du monde. Non, c'est complètement ridicule.
Alors, après qu'il vous en avait, hein.
Non, mais nous, les femmes, il y a certains sports qu'on n'apprécie pas, on ne le dit pas. Pour l'haltérophilie.
Une odeur de poussière, de sueur et d'eau de toilette, des murs gris tapissés d'affiches de combat. Pas très loin de Nancy, le modeste club de Dombasle a vu naître l'une de nos championnes du monde, aujourd'hui en reconversion. Son nom en tout petit sur les affiches, à côté de ceux des hommes, a fini par prendre toute la place. Anne-Sophie Matisse est une grande femme blonde, au corps sec et musclé, au regard franc. Ça, c'est le club de Dombasle. C'est là que vous avez commencé avec René Cordier, c'est ça?
Ouais, donc ça, c'est le club de boxe anglaise. Et après, on a une petite salle qui est séparée avec une espèce de porte de rideau de fer. Voilà. Et là, de l'autre côté, donc, on a le ring auquel on va faire du sparring. Et les gants de frappe avec cordes à sauter. Je suis arrivé par cette porte par laquelle on est passé, donc qui est la sortie de secours à la base. Et René était au fond de la salle, je ne sais plus avec qui il discutait. Je suis rentré, il m'a dit « Bonjour, qu'est-ce que vous désirez ?» Donc je lui dis « Voilà, je me présente, Anne-Sophie Matisse, je fais de la boxe pied-point punch et je viens me renseigner pour faire de la boxe anglaise. » Il dit « Bah, si tu as envie d'essayer, tu peux aller avec les filles, voilà, tu vas là-bas. » Et je lui dis, mais comment ça? Il me dit, bah, tu te mets en tenue, puis tu vas essayer, puis je viendrai te voir. Je lui dis, non, mais moi, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je lui dis, je veux être entraîné, faire un vrai entraînement, et je veux faire de la compétition. Il dit, non, mais chez nous, on fait pas de compétition, donc ça m'intéresse pas. Il entraînait des filles qui ont loisir. Donc ça restait soit elles se mettaient sur un sac et elles s'entraînaient individuellement pour leur bien-être, ou soit elles faisaient le cours pour pourquoi d'ailleurs, puisqu'ils ne faisaient pas de compète. Pourquoi? Pour apprendre. Non, mais à l'époque, il n'était pas du tout pour. Et il le dit lui-même. Hein.
Parce qu'il pensait quoi à l'époque sur les filles et la boxe?
Bah, que les filles, ça se gardait à la maison et qu'il ne fallait pas les abîmer. C'était surtout... ouais, c'est plus la protection, on va dire. Et je lui dis, ouais, mais on m'a dit que vous étiez un très bon club. Il n'y a que ici. Et moi, je vais faire de la boxe en règle. Enfin, bref, j'essaie vraiment de lui faire changer la vie. Et puis, il m'a dit, bon, écoute... Tu vas te changer et puis tu vois là le boxeur là-bas, tu vas mettre les gants avec lui. Donc c'est ce fameux Karim Yembou qui était à l'époque champion de France de boxe anglaise. Et je suis monté sur le ring et j'ai pas touché terre quoi. Si, j'ai fait que de tourner. J'ai tourné, essayé de me sauver parce que je prenais des coups. Et puis le fait d'avoir été là pendant 3 rounds je crois qu'on a fait. Et pas de reculer et puis de vraiment démontrer que j'étais capable. Il m'a dit, tu verras me revoir, on va discuter. Prouve-moi et on verra par la suite.
Voilà, Jenny Lobo avec son dossard dans le 30. Il va faire aussi.
Et Jenny Longo, c'est pas une femme? Ah, il va nous dire que Jenny Longo, c'est pas une femme.
C'est pas une femme, Jenny Longo?
Catherine Nouveau, donc je suis sociologue du sport. Je suis professeure des universités à l'Université Paris-Sud.
Alors, vous vous intéressez au rapport entre les femmes et les hommes dans la société? Et vous avez comme poste d'observation le monde du sport. Et est-ce que le monde du sport est encore un milieu très inégalitaire?
Oui, très inégalitaire, c'est un euphémisme. C'est-à-dire que ce soit sur l'accès aux pratiques sportives, que ce soit sur l'accès à tous les sports... Par exemple, le football, les femmes n'ont commencé à le pratiquer. Alors, il y a eu quelques équipes dans les années 20, mais sinon, elles n'ont commencé à le pratiquer à la fédération que dans les années 1970. Donc, c'est très récent. Donc, inégalité dans l'accès au sport, mais inégalité ensuite sur l'accès au terrain, sur les primes, sur l'accès au niveau, Et puis inégalité aussi par rapport à la médiatisation. Alors là, le temps consacré aux femmes sportives dans les médias est très très inégalitaire. Dans les données, les statistiques les plus récentes que l'on a, où un bilan donc vient d'être fait sur donc le sport dans les journaux télévisés par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, eh bien, on s'aperçoit que sur les 6 dernières années, les femmes ne sont présentes que dans 6% des sujets consacrés au sport. 6% des sujets consacrés au sport. Quand on regarde les sports médiatisés, là aussi, le CSA compte les heures. Le sport le plus médiatisé, c'est le football, avec plus de 1000 heures par an. Ensuite, on a le tennis. Puis, on a des sports comme le rugby, les boxes, le cyclisme, les sports mécaniques. Bon, bah, pendant plus des deux tiers, presque les trois quarts de ce temps, du sport diffusé sur les grandes chaînes hertziennes, on va dire, on est sûr qu'on ne voit pas de femmes. Les femmes journalistes représentent, de sport, représentent 8% des journalistes de sport. Alors que dans la profession de journaliste, les femmes sont entre 40 et 45%. Donc là aussi, on voit la très très grande inégalité. On pourrait parler aussi de l'accès des femmes au poste de dirigeant. On s'extasie encore en 2013 quand une femme, Isabelle Lamour, devient présidente d'une fédération sportive olympique, la fédération d'escrime. On trouve ça formidable. Moi, je trouve pas ça formidable. Parce que les femmes, on les compte sur les doigts à peine des deux mains sur l'ensemble, sur les 110, 115 fédérations sportives. Les femmes arbitres, c'est moins de 10%, etc., etc.
Et alors, comment est-ce qu'on explique ces inégalités ?
Bah, ce qui a beaucoup posé problème, en fait, historiquement d'ailleurs, et encore actuellement, c'est la mise en jeu des corps. Bien sûr, le sport, c'est la mise en jeu du corps. Et il a été considéré comme inacceptable, non conforme aux normes morales, voire religieuses, à la décence, etc., que les femmes se donnent à voir dans l'effort, donc avec des grimaces, en sueur, tombant, exténuées au terme d'une course de longue distance, alors a fortiori, donc sur des disciplines où on est dans des corps à corps, des affrontements, comme par exemple dans le rugby. Hein, le rugby est quand même un sport d'affrontement. Le football aussi, qui est une métaphore quand même de la guerre, de l'affrontement de deux camps, donc avec des chocs. Les boxes, bien évidemment, ou bien le cyclisme. Hein, c'est un grand champion français qui disait un jour à Jeannie Longo, sur un vélo, vous êtes moche. Ce à quoi elle avait répondu, et avec un balai, est-ce que je suis jolie, j'aime beaucoup cette répartie. Bon, et donc là, voilà, il y a eu beaucoup de questionnements autour de l'arrivée des femmes dans les sports de tradition masculine. Alors, c'est aussi parce que on est dans le sport encore dans des terrains de construction de la virilité. Dès l'enfance des petits garçons, on leur met un ballon dans les pieds. Et puis, ça pleure pas un garçon. Et puis, donc voilà, donc pendant qu'il est initié au football, ou au judo. Alors les deux pratiques les plus fréquentes chez les petits garçons de 5, 6 ans, 7 ans, c'est le football et le judo. Et pendant ce temps-là, les filles continuent, je dis continuent, c'est-à-dire de génération en génération, de faire ou de la danse ou de la gymnastique. À eux les coups, le combat, l'affrontement, la simulation de la bagarre, enfin qui est le plus fort, etc. À elles, la grâce, l'esthétique, se faire jolie, mignonne, gracieuse, souriante.
Vous avez le temps de manger du coup ?
Oui, j'ai le temps de manger. Hop là, voilà. Ça y est, c'est bon. Allez. Ouais, non, parce que j'ai perdu le travail parce que je suis dans la police et que dans la police, des fois, c'est un peu compliqué dans le sens où il y a des rapports à faire ou autre. C'est la dame n'était pas contente qu'elle a pris une amende de 135 euros. On fait tout ce qui est verbalisation sur le secteur payant et gênant. Et si par la suite je veux rentrer en tant que policière, il faut que je passe le concours. Je pense que ça peut m'amener à une carrière intéressante, quoi. Mais en tout cas, c'est dans mon optique. Et puis, objectif, bah, c'est de faire comme la boxe, hein, aller au plus haut. Et dans la boxe, justement, j'avais des repères parce qu'on me disait, voilà, tu t'entraînes, il y a ça comme objectif et tu vas pouvoir faire ça ou pas. C'est pas spécialement un goût de la bagarre, mais par contre, j'ai un tempérament, je monte assez vite. Et le sport m'a amené à me calmer. Mais à l'époque, on me disait un mot qui me plaisait pas ou un ton un peu trop élevé. Je partais direct, j'étais caractère. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai ressenti quelque chose. Je me rappelle d'un bien-être où voilà, on se vide. Le fait de monter sur un ring, c'est une autre sensation. J'ai toujours appréhendé, mais c'est peut-être plus appréhender peur de perdre. Un manque de confiance en moi. Parce que je suis quelqu'un dans le ring qui est très forte, mais autant dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses que j'aurais pas été capable. Et quand j'ai fait le championnat d'Europe le 25 octobre 2009, 2005, pardon, j'ai battu Myriam Lamar au 7e round par KO. Mais ça a été un combat de titan dans le sens où, voilà, c'était personne ne peut la battre parce que Myriam Lamar, c'était vraiment à l'intérieur de la boxe féminine. Et ça a été le combat le plus marquant de ma carrière et qui reste encore à l'heure actuelle dans les annales.
Qu'est-ce qui a été dit sur ce combat, les commentateurs au moment où vous combattiez?
Alors les commentateurs, c'était rigolo dans le sens où ils se trompaient, ils parlaient au masculin. Tellement que le combat était plutôt masculin que féminin.
Est-ce qu'il y a un lieu dans cette maison où vous gardez toutes vos médailles, vos prix? On peut aller voir.
On peut y aller, ouais, tout en haut.
Dernier étage.
Alors, là, derrière. Voilà.
Et là, on a donc une vitrine entière de ceintures d'un côté. Il y a des gants de boxe en cuir. Et donc là, au milieu de la vitrine, il y a ce gant d'or 2011.
En fait, j'ai eu deux gants d'argent, comme Myriam Lamar. Et j'étais la première femme à recevoir le gant d'or boxe anglaise avec hommes et femmes confondus. J'ai eu aussi de la chance, je le dis, parce qu'à l'époque, il n'y a pas eu d'homme de renommée qui a fait un championnat du monde en ayant gagné. Mais il y aurait eu un homme qui aurait fait un championnat du monde en France, même un combat bidon, hein, quelque chose de pas reconnu, il aurait donné le gant d'or. Parce que à l'époque, et même il pourrait vous le dire, parce que c'est quelqu'un de très franc, c'est Jean-Claude Boutier, n'était pas du tout pour la boxe féminine. Donc il avait du mal un petit peu à redonner le gant d'or à une fille. D'ailleurs, c'est pas lui qui me l'a remis, c'est son associé, une femme, qui me l'a redonné. Mais dans tous les cas, ce qui me fait plaisir, c'est quand même que c'est moi qui l'ai, quoi. Voilà. Donc j'étais la première femme à recevoir le gant d'or. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, en fait. Je me sentais toujours championne en moi-même. Je pensais pas aller au-delà, parce que c'est vrai que c'est inespéré d'être 8 fois championne du monde, surtout de 3 catégories différentes. Mais vraiment, j'espérais devenir championne du monde. Par contre, la seule chose que je ne savais pas, c'est que je me voyais en vivre. Je me voyais en haut de l'affiche, et puis être avec tout ce qui va avec, comme les autres sportifs, mais malheureusement, non, c'est pas ça. Mais bon. Bon, après, c'est la vie. Hein.
Ouais, parce que les gains, c'est combien pour... En étant championne du monde, qu'est-ce que vous avez remporté?
Eh ben, en fait, ça, c'est pas des choses que j'ai envie vraiment d'établir, mais on est payé 10 fois moins qu'un homme.
Ce qu'il faut dire, c'est que vous, c'était quelques dizaines de milliers d'euros, un gain en championnat. Mmh. Et un homme, c'est quelques centaines de milliers d'euros, quoi.
Ouais, c'était 10 fois moins. Ah. Mais j'arrivais à me faire un salaire sur l'année. Et ça s'arrêtait là, parce que même si je cotisais pour ma retraite, voilà, je suis obligé de travailler à côté, parce que maintenant que j'ai fini de boxer, j'ai plus rien. Donc juste, ça m'a permis juste de vivre sur le moment.
Comment est-ce que vous faisiez, parce que là vous n'étiez pas encore championne du monde, donc là tous vos entraînements pour le championnat d'Europe et pour la suite, vous viviez de quoi?
Je vivais du RMI et puis de petits boulots, chômage, donc, parce que j'ai jamais réussi à avoir de contrat aidé en tant que sportif de haut niveau, on n'était pas reconnu à l'époque, donc je me suis débrouillé. Pour être championne du monde, même mon voisin n'était pas au courant. Maintenant que c'est reconnu, on met en place pas mal de choses.
À Roland-Garros, l'air est chaud et électrique. Le journaliste Yannick Kochnek nous attend devant la plaque en bronze de Suzanne Lenglen, celle qu'on a surnommée la divine du tennis français.
Le sport féminin, ça a été un long combat. Le tennis féminin a été un porte-étendard en la matière parce que ça a été un sport pionnier. C'est aujourd'hui le sport féminin numéro un. Il y a eu vraiment des championnes comme Billie Jean King et comme Martina Navratilova qui ont été vraiment des pionnières, des révolutionnaires de mon point de vue même, c'est-à-dire qui ont reconnu les droits des joueuses, les droits des femmes, qui ont créé le circuit féminin et qui, pour les deux en question aussi, ont revendiqué les droits des homosexuels puisqu'elles étaient homosexuelles toutes les deux. Alors Billie Jean King, c'est une très grande joueuse des années fin des années 60, années 70 et qui même a prolongé jusque dans les années 80, qui était une joueuse américaine. Et au début des années 70, avec d'autres, des sortes un peu de suffragettes du tennis, elle a décidé de construire le circuit féminin. Et ça s'est fait à travers un événement très médiatique qui était ce qu'on a appelé la bataille des sexes, qui a eu lieu à Houston au Texas, qui était un match entre Billie Jean King et Bobby Riggs, qui était un ancien grand champion des années 40 américain, un type très provocateur et voilà, qui avait fait un pari avec elle en disant que tu ne me battras jamais. Et ce personnage, qui était évidemment très vieillissant, a perdu ce match. Et c'est un match qui a été regardé, je crois, sur la chaîne NBC par des dizaines de millions de spectateurs. Je crois qu'aujourd'hui, cela reste, en taux d'audience, le match de tennis le plus regardé aux États-Unis dans l'histoire de ce sport. Donc c'est... ce match a été un effet catalyseur et elles ont réussi à créer leur circuit. Et le circuit s'est développé. Il s'est développé notamment dans les années 80 à la faveur d'une grande rivalité qui était Chris Evert, Martina Navratilova. Ça a pris son essor, sont arrivées d'autres championnes, Steffi Graf, Monica Seles, Arantxa Sanchez, jusqu'au Williams, qui elles ont prolongé le combat parce qu'elles étaient des femmes de couleur. Et elles ont permis à des joueuses de couleur de gagner des grands tournois, de devenir numéro un mondial. Et donc, elles ont semé les graines. Et alors, s'il y a eu égalité des prix, c'est vrai. Il y a eu égalité des prix, par exemple, à l'US Open dès 1973. Mais il a fallu attendre plus de 25 ans pour voir les autres tournois du Grand Chelem dans les années 2000. Rejoindre le mouvement, donc ça n'a pas été évident et ça n'est toujours pas évident aux yeux de certains, puisque aujourd'hui il y a toujours des débats. Au mois de mars, Novak Djokovic a fait une réflexion qui a paru désobligeante en laissant supposer que les hommes méritaient de gagner plus d'argent que les femmes parce que leurs matchs sont plus longs, notamment dans les grands chelems où ils jouent au meilleur des 5 manches alors que les filles jouent au meilleur des 3 sets. Et on a vu tout de suite, ça a été une réaction en chaîne, il a déclenché une véritable polémique dans laquelle il s'est retrouvé coincé et très très mal à l'aise. Il lui a fallu en quelque sorte avoir une communication de crise pour réagir parce qu'il avait commis un faux pas. Voilà, aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est plus contestable.
Le circuit féminin s'est glamourisé, porté par des joueuses au physique avantageux qui multiplient les contrats publicitaires. C'est le syndrome Kournikova. Là encore, le tennis a été pionnier. Ces dernières années, les fédérations ont lancé des plans de féminisation pour valoriser le sport féminin. C'est dans cet esprit que les fédérations de badminton, de boxe et de handball ont voulu rendre le port de la jupe obligatoire dans les compétitions, avant de reculer face à la critique et aux résistances des sportives. Pour Catherine Louveau, cet impératif de féminité est une tendance qui ne s'arrange pas.
Ce qui est encore très mal accepté, c'est que les femmes soient costaudes. C'est-à-dire qu'elles soient très musclées, qu'elles soient puissantes, qu'elles aient des épaules très musclées, qu'elles aient des hanches que certains considèrent comme trop étroites. Il y a toujours cette idée qu'une bonne future mère a des hanches larges. Et les sportives, pendant plus d'un siècle, ont eu à s'affronter en fait à cette question de « est-ce que le sport est compatible avec la féminité ?» Pendant très longtemps, et ça reste encore un peu vrai, même si ça s'est un peu atténué, les journalistes commentaient... au moins autant ce que les filles paraissent, beaucoup plus que leur performance. Ce qui n'est jamais le cas pour les hommes. Et alors on voit bien maintenant, il y a une... Alors on voit plus de filles dans des événements sportifs, dans les médias, et paradoxalement, on en voit, et en même temps on s'aperçoit qu'il y a une exigence donc, de travail de cette apparence, ce qu'avec d'autres collègues on appelle la sexualisation des femmes, qui est accentuée et qui est même, moi je considère qu'elle est quasi exigée des filles pour pouvoir être médiatisée. Il y a des sportifs qu'on ne voit pas. Les hommes dans les sports de force, en rugby, on les voit beaucoup, les filles, on ne les voit pas. Par exemple, hein, les joueuses de rugby, on va voir, oui, des basketteuses, on va voir des gymnastes, on va voir des coureuses de 100 mètres, certaines athlètes, ou des joueuses de tennis. En fait, elles sont médiatisées sous condition. La condition, c'est que il faut qu'elles soient dans des apparences sexy, glamour, et c'est même une, oui, c'est devenu une condition pour être médiatisée. Bon, certains me disent que j'exagère et que on en voit de plus en plus et que ça s'arrange finalement. Tu vois, il y a beaucoup de sports féminins médiatisés. Et moi, je trouve que c'est plutôt le contraire que l'on observe. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, des compétitions d'athlétisme, on s'aperçoit que dans les finales de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, etc., elles ont du vernis à ongles, elles ont toutes les cheveux longs, elles ont des bijoux. Autant de choses pas forcément nécessaires pour courir et pour gagner. À la fin des années 80, sur le Tour de France cycliste féminin, on imposait aux filles de se mettre du vernis à ongles avant de monter sur leur vélo. Ce qui n'était pas vraiment efficace pour la performance, mais ça montrait un signe de féminité. Dans les années 2000, à la Fédération de football, quand l'équipe de France allait recevoir une récompense, on les obligeait à mettre des jupes, tailleurs-jupes. Et là, donc, en ce moment... Eh bien, une sportive de haut niveau a déclaré que, en fait, les sportifs qui ont les cheveux courts ne peuvent pas rentrer dans les plus hautes équipes de France de football. Et en effet, quand on regarde la composition de l'équipe de France sélectionnée pour les Jeux Olympiques en football française, elles ont toutes les cheveux longs. C'est-à-dire, pour que ce soit médiatisable, vendable, que ça fasse de l'audience, il faut être dans le registre de... Oui, elles sont sportives, mais ce sont quand même des femmes. Et d'ailleurs, beaucoup de sportives parlent comme ça. Je suis quand même une fille, je suis une vraie femme. Comme si elles étaient tout le temps soumises à une espèce d'injonction de prouver qu'elles sont quand même des femmes, même si elles sont très musclées, si elles sont très performantes. Et c'est ça qu'elles n'osent pas dire, les sportives. Elles sont pas là pour faire joli. Elles sont là pour gagner. Elles sont dans une compétition sportive dans laquelle elles doivent être performantes. Et donc, elles doivent avoir l'apparence, le corps qui va avec cette performance. Évidemment, ce corps n'est pas le même si on fait de la gymnastique, du patinage, du rugby ou de l'haltérophilie, c'est évident.
Florian Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi.
Ouais, Erzikova qui vient attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes.
La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Florian, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne avec toujours la possibilité pour Adeoye alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant.
Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... la Britannique est en train de craquer.
Alors peut-être.
La Britannique est en train de craquer, Patrick.
Allez. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même.
La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer.
Elle revient, elle va passer, elle va passer.
Allez,
encore.
C'est monstrueux.
C'est bon,
quelle ligne droite, quelle ligne droite.
Magnifique.
Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres, quel 400 mètres.
Elles sont championnes d'Europe.
Elles sont championnes d'Europe.
C'est énorme.
J'ai jamais vu ça.
Patrick,
je n'ai jamais vu ça.
Extraordinaire.
Mais regarde.
Nous sommes devant ComQuest, une agence de communication qui travaille avec les fédérations et les clubs sportifs. Et nous allons rencontrer Renaud Blondel, l'un de ses fondateurs.
L'agence ComQuest travaille la moitié de son temps sur des questions sportives et de marketing sportif. Et de fait, comme on travaille avec une vingtaine de fédérations, la plupart d'entre elles ont des équipes féminines. Nous, on voit très très clairement, en tout cas, que la nature des briefs a changé depuis quelques années. La désirabilité, l'attractivité, on nous demande vraiment plus de la faire passer par le glamour. C'est poncif, vous vous souvenez forcément de ces affiches qu'on fleurit avec des poitrines galbées, des jambes, des rouges à lèvres, etc. Talons aiguilles. Moi-même, je me souviens avoir fait il y a quelques années une affiche de hand avec des grandes cuissardes rouges et blanches. Honnêtement, je ne la proposerai plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, on nous demande vraiment de considérer la femme athlète avant tout comme une athlète. Donc ces codes-là, ils ont complètement changé. Mais par contre, il faut juste se rappeler que dans ces dérives qu'on a pu constater, la responsabilité elle est complètement plurielle. C'est-à-dire que s'il y a un club ou une fédé qui valide ou qui souscrit, et qu'il y a des partenaires qui cautionnent. Donc en fait, on était tous responsables. Et on sent que petit à petit, ça a basculé vers quelque chose de beaucoup plus sportif et de beaucoup plus équilibré avec les hommes.
Et pour vous, le virage, quand est-ce qu'il s'est amorcé ?
C'est compliqué de le dater parce que déjà d'une fédération à l'autre ou d'une discipline à l'autre, aujourd'hui encore, il y a des fédérations qui continuent de capitaliser sur le glamour. Moi, je crois que l'émergence du foot féminin y a été pour beaucoup.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, quand on va sur le site de la Ligue féminine de basket, par exemple, le slogan c'est « la vie se joue en rose », les plaquettes sont roses. On a toujours effectivement on insiste quand même sur le genre des sportifs, en fait.
Alors là, je crois qu'on est dans... Je ne veux pas parler en leur nom, on les connaît un petit peu, mais je crois qu'on est dans le cas de figure d'une fédération, et ça rien de rétrograde, hein, attention, hein, mais d'une fédération qui continue effectivement, le basket, à jouer sur cet atout charme. Ça leur appartient.
Décalage, droite-gauche. Okay. Décalage, droite-gauche. Là, c'est toutes les affiches qu'on a gardées quand on a organisé dans le coin. Là, cette affiche-là, là, il y a pas mal de roses. Alors ça, moi, pour moi, ça me gênait un peu. Ça fait un peu la boxe féminine avec du rose. D'ailleurs, on propose à chaque fois des gants roses, des habits roses. Moi, je refusais totalement. Moi, je voulais qu'on me compare à une boxeuse comme un homme, quoi. Dans le sens où, voilà, j'ai un short noir. Simplement, voilà. Les cheveux lâchés, je trouvais que c'était sympa parce que ça amenait une approche un peu plus au niveau aspect visuel, plus intéressant, parce que c'est un combat féminin. Mais après, la couleur, ça me gênait. Ça, c'est mon point de vue. Là, c'était justement contre Anna Pascal, donc cette fille qui était très masculine. Une fille qui sortait de prison, les cheveux rasés. En plus, elle avait des traits super masculins. Mais la fille en elle-même a été très critiquée, quoi. L'image a quand même un peu son impact. La preuve, c'est que moi, j'en ai un peu souffert dans le sens où, sur le ring, j'étais pas spécialement féminine. Surtout qu'on n'est pas maquillée. On a les cheveux tirés pour éviter d'avoir les cheveux dans le visage. Donc avec les traits durs du régime et puis de l'agressivité, il y a des moments, moi-même, je me dis vache, la tête que j'ai sur l'écran. Donc je pense que le côté où la personne est déjà féminine de base, c'est un plus quand même. Pour avoir autre chose, il y en a beaucoup qui ont fait des choses que moi, j'aurais jamais fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de boxeuses à l'époque qui faisaient des photos de charme, par exemple, justement pour avoir autre chose derrière. Chose que j'aurais jamais faite, quoi. Pour moi, c'était pas du tout dans ma façon d'être. C'était me faire connaître par le biais de la boxe. Ça n'a jamais fonctionné, bah tant pis.
En 2017 se tiendra l'Euro féminin de foot, puis la Coupe du monde des féminines qui se jouera en France. Imaginons qu'un jour, nous soyons capables d'inonder de foot nos médias, nos rues, nos stades, pour soutenir les femmes qui portent nos couleurs. Pour en arriver là, peut-être faut-il plus de volonté politique, et repartir du tout début, la cour d'école, comme celle du Perouate, à Mont-de-Marsan, où les enfants apprennent à penser autrement le partage du terrain de foot.
Alors les enfants, comme on en a parlé hier, aujourd'hui on va regarder des vidéos de récréation du cycle 2 et vous allez pouvoir parler sur ces vidéos. Vous allez pouvoir dire tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui a évolué dans l'école depuis l'année dernière. Vous avez remarqué qu'il y a Edith dans la classe. Vous n'avez pas dit bonjour à Edith.
Bonjour, j'ai pas dit bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, donc la dernière fois que tu étais venue, c'était il y a 6 mois à peu près.
Ouais. Est-ce que tout le monde se rappelle de moi?
Oui.
Qui est capable de dire ce que je fais?
Géographe.
Je suis géographe.
Très bien, bravo. Et qu'est-ce que je travaille? Des tout petits espaces comme la cour de récréation, l'espace public. Et qu'est-ce que je regarde? La mixité et l'égalité entre eux.
Les filles et les garçons.
Bravo.
Vous allez voir comment se passe l'action sur le terrain de foot.
Ah,
une petite pause. Pour l'instant, c'est le début de la récréation.
En fait, il n'y a que deux filles qui ont le droit de jouer. Manuela, parce que c'est la cousine à Kelino. Mm-hmm.
Et Louane.
Et Louane, parce qu'elle fait du foot et qu'elle est forte. Et tout à l'heure, Kelino, il a dit... on a dit pourquoi on n'a pas le droit de jouer. Il a fait, mais parce que vous êtes nuls.
Et tout à l'heure, Shaïma, tu as dit, on se dit qu'on n'a pas le droit.
Mais on a le droit, sauf que leur réaction, ils disent des gros mots. Et des fois, il y a des réactions où ils font exprès de taper des pieds pour qu'on a peur et qu'on sorte.
Edith, Marou et Jules, qu'est-ce que vous faites ici à l'école du Perrouat?
À l'école du Perrouat, je travaille depuis janvier 2010 avec l'équipe enseignante. Dans cette école, on travaille sur un projet d'école égalitaire. L'apprentissage à l'école de l'espace de cours de récréation, c'est ce que j'appelle un micro espace public. Comme on ne traverse pas ce terrain de football, comme on ne peut pas l'investir non plus avec son corps physiquement, enfin, ou se positionner dans un espace masculin, ça va rester dans la symbolique en fait des jeunes filles. Hein. Ça, c'est quelque chose qui va rester. Les garçons, de leur côté, se déploient et apprennent aussi à se bousculer, à prendre leur place hein, physique, apprennent à créer le groupe, à gérer le groupe. Mais ce sont après des qualités, j'allais dire, ou des compétences qu'on peut réinvestir à la fois sur l'espace public, mais aussi dans le monde professionnel, hein, c'est ce qu'on demande, hein, prendre sa place, travailler avec le collectif, se rendre visible aussi, parce que quand on est sur les bords, on est moins visible que quand on est au milieu. Hein. Et pour les petites filles, il y a quand même un effet de seuil, un effet de limitation, et c'est ce qu'on voit aussi hein, quand elles parlent aussi, c'est-à-dire qu'elles ne se sentent plus légitimes sur des espaces où elles ont le droit d'être. Le problème, c'est que le groupe social qu'elles représentent, les valeurs qui sont derrière la norme, qu'est-ce que s'habiller en rose, quels sont ces êtres humains-là, elles sont moins valorisées dans notre société. Vous comprenez, c'est ça qui est vraiment important. C'est la hiérarchie, quoi. La cour de récréation, c'est un stigmate de ce qui se passe aussi sur la question sportive de manière plus globale. S'il n'y avait pas d'empêchement, on ne pourrait pas constater ça. On ne peut pas constater 90-100% de fréquentation masculine sur des city stars ou des skateparks avec des filles qui reproduisent la cour de récréation, qui regardent. Regarder, c'est pas participer.
Sportive, un combat, c'était un reportage de Céline Rouzet réalisé par Anne Yoro avec l'assistance de Stéphane Paume. Mixage, Olivier Dupont. C'est l'été sur France Inter et la semaine prochaine, nous entamerons notre série de rediffusion des meilleurs reportages de l'année d'Interception avec Surinformé ou Désinformé, un reportage d'Emmanuel Davier sur la façon dont les ados s'informent aujourd'hui. Bon été et bonnes vacances.
Merci à vous Lionel Thompson, à la semaine prochaine. Vous écoutez France Inter, il est 10h20.